Seule radio où vous pouvez découvrir en version étendue les meilleures interviews. Bonne nuit avec nos survoltages.
Vous le savez peut-être, lorsque vous écoutez votre radio, que vous regardez une émission de télé, les animateurs ou encore les producteurs de programmes sont soumis à certaines règles, des règles inscrites dans la loi, et c'est à ce qu'on appelait auparavant le CSA, de s'assurer qu'elles sont bien respectées. Le CSA qui, depuis le 1er janvier, a fusionné avec l'Adopi. L'Adopi que vous connaissez peut-être, et pour ça on ne vous dit pas bravo si vous téléchargez des films illégalement sur Internet. C'est elle qui était chargée de vous envoyer un rappel à l'ordre ou une amende. Depuis cette fusion, il faut donc dire Arcom. Alors pourquoi les deux autorités ont-elles fusionné? Qu'est-ce que ça change exactement? Nous avons posé la question au président de l'Arcom, Roch-Olivier Maistre.
Alors on est dans un paysage audiovisuel qui se transforme énormément, avec de nouveaux acteurs, et notamment tous les acteurs du numérique. Et donc il a paru nécessaire d'adapter le régulateur du paysage audiovisuel, qui était le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour qu'il épouse son temps. Et donc le législateur a organisé la fusion du CSA avec Adopi. Adopi étant en charge de la lutte contre le piratage, pour créer au 1er janvier de cette année l'Arcom, qui est donc un grand régulateur qui s'assure à la fois du bon fonctionnement du paysage audiovisuel classique, les radios, les télévisions telles qu'on les connaît, et qui s'occupe de plus en plus des grands acteurs du numérique, les réseaux sociaux, mais aussi les plateformes de vidéo par abonnement, puisque maintenant ce sont des acteurs Netflix, Disney+, Amazon Prime qui font partie aussi de notre périmètre. Donc voilà, c'est un grand régulateur qui s'est modernisé pour épouser son époque, j'allais dire, son temps, et prendre en compte les transformations du paysage audiovisuel qui sont très fortes.
Le président de l'Arcom qui est désigné par le président de la République, tandis que les 8 autres conseillers et conseillères sont désignés, eux, par l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État ou encore la Cour de cassation. Des conseillers qui sont devenus évidemment plus nombreux depuis que le CSA est devenu l'Arcom.
L'institution s'est renforcée. C'est une institution qui est pilotée par un collège composé de 9 membres désignés par 5 autorités différentes. Donc c'est une autorité indépendante. Toutes ces décisions sont des décisions collégiales. C'est une grosse autorité puisqu'elle a maintenant 355 collaborateurs. On a une présence dans chacune des régions de France, donc en métropole et outre-mer, ce qui nous permet d'être en contact avec tous les acteurs, notamment les radios, puisqu'on a la chance en France d'avoir un réseau radiophonique d'une très grande densité.
L'Arcom a donc plusieurs missions, s'assurer du bon fonctionnement des médias sur Internet, les plateformes de streaming, sur les écrans et sur les ondes radio, qu'il n'y ait pas par exemple de fausses informations véhiculées, ou encore que les œuvres comme les films et les musiques soient protégées, par exemple qu'elles ne soient pas téléchargées illégalement, ou encore que les chaînes de télévision diffusent bien des productions françaises. L'Arcom aide aussi les médias à se développer, c'est le cas pour les radios avec le DAB+, une autre façon en plus de la FM d'écouter la radio, plus moderne, puisqu'elle se fait par voie numérique grâce à un poste dédié.
Chez nous, on est plutôt gâtés. Grâce à la radio, on peut se réveiller en musique, on peut avoir les infos au petit déjeuner et sur le chemin du boulot, on peut entendre les dernières infos trafic. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour écouter la radio. Car tout comme la télévision et la photo sont passées au digital, la radio fait aussi sa transition numérique. Aujourd'hui, vous passez déjà près d'un 1/5 de votre temps à écouter la radio en numérique, sur votre ordinateur, votre téléviseur ou via une app sur smartphone ou tablette. Mais tout cela a un coût, car vous devez aussi payer une connexion Internet ou la télédistribution. La solution, c'est d'écouter la radio en DAB+, un signal audio numérique diffusé par voie hertzienne. Ce successeur digital de la FM offre la meilleure qualité sonore, gratuitement et où que vous soyez dans notre région.
L'Arcom développe le DAB+ partout en France et attribue aussi les fréquences aux radios.
Notre objectif, c'est de couvrir grosso modo 50% de la population premier semestre 2023. On a franchi de grandes étapes. La France était en retard pour le déploiement de cette technologie. Il faut rappeler peut-être aux auditeurs, c'est un mode de diffusion de la radio qui apporte à la fois une qualité de son supérieure, un son numérique, qui donne en mobilité, quand on roule par exemple sur une autoroute, plus de confort puisqu'on ne perd pas le signal, la fréquence ne se met pas à grésiller, le signal suit automatiquement, et qui permet aussi de donner à l'auditeur des informations. Les postes de radio maintenant généralement ont des écrans, donc on peut voir la pochette du disque qu'on est en train d'entendre, le nom de l'animateur qui est en train de s'exprimer, ou la personne qui est interviewée. La France était assez en retard, donc là on a mis un grand coup d'accélérateur. Et donc l'année prochaine, environ 50% de la population sera touchée, donc toutes les grandes agglomérations, les grands axes routiers, et progressivement on va compléter la carte de France pour que l'ensemble de la France soit couverte. D'ores et déjà, quand vous achetez une voiture, depuis 2 ans maintenant, les voitures sont équipées d'autoradios qui permettent d'écouter en DAB+. Donc voilà, sur les grosses agglomérations, il y a déjà beaucoup de radios qui émettent en DAB.
Il est aussi possible d'acheter aujourd'hui un poste de radio DAB+. Ils sont en vente dans tous les magasins d'électroménager. Est difficile en revanche de savoir pour l'instant si le DAB+ a bien pris en France.
C'est encore difficile de le savoir parce que on n'a pas encore d'instrument de mesure de l'audience en DAB+. C'est un sujet sur lequel l'entreprise qui est spécialisée en la matière, qui s'appelle Médiamétrie, est en train de travailler. Et on sent qu'il y a un mouvement qui se développe. Les radios se sont regroupées au sein d'une association et vont lancer prochainement des campagnes de communication pour commencer à expliquer aux Français ce qu'est le DAB+. Parce que souvent, on écoute du DAB sans le savoir.
L'objectif du DAB+, c'est aussi d'assurer un avenir plus serein à la radio qui peut aujourd'hui faire face à certaines difficultés comme une baisse d'audience ou encore une baisse des recettes publicitaires.
La radio a toujours été articulée avec les techniques contemporaines de son temps. La FM à un moment était le modèle de référence, elle l'est encore très largement. Le DAB est le modèle d'avenir, donc c'est un peu une nouvelle frontière et pour assurer le développement de la radio qui est aujourd'hui confrontée à des difficultés qu'il ne faut pas négliger. Elle a des contraintes publicitaires puisque le marché de la publicité est fortement concurrencé par les grands acteurs du numérique, Google, Facebook, pour ne pas les nommer. Donc la recette publicitaire du monde de la radio baisse et donc c'est une contrainte pour les acteurs. L'audience aussi a un peu tendance à vieillir et donc c'est important que la radio épouse les techniques de son temps pour aller chercher les publics là où ils sont et travaille aussi sur les bons formats. Je pense au podcast par exemple qui se développe et qui permet maintenant d'entendre la radio sur le support de son choix et à son horaire de prédilection si je puis dire. Donc voilà, c'est des évolutions très importantes.
Et vous ne le savez peut-être pas, mais la radio doit aussi se soumettre à certaines règles en matière de musique qu'elle diffuse. C'est ce qu'on appelle les quotas. Chaque radio doit obligatoirement diffuser un certain pourcentage de chansons françaises et de nouveaux talents français.
C'est une contrainte importante pour le secteur qui a une raison d'être, bien évidemment, qui est de défendre l'exception culturelle française à laquelle on est attaché, de défendre la création française et en l'occurrence la chanson française. Donc c'est une politique qui est fixée par la loi. Donc, on n'a pas de liberté de manœuvre, c'est le législateur qui l'a souhaité. On a quand même quelques paramètres sur lesquels on peut jouer et donc on a beaucoup concerté ces derniers mois avec les radios, avec la filière musicale, la SACEM, le syndicat d'émission phonographique pour essayer de voir les paramètres sur lesquels on pouvait assouplir un petit peu les règles pour donner un petit peu plus de latitude aux radios. Donc c'est ce qu'on a fait avec une nouvelle délibération qu'on a adoptée cette année qui rentre en vigueur. Voilà, qui donnera aux radios un petit peu plus de latitude et un petit peu plus de facilité pour réaliser leurs obligations.
Depuis l'année dernière, les radios peuvent réaliser ces quotas sur un trimestre et non plus sur un mois. L'autre mission de l'ARCOM, c'est aussi de protéger les publics sensibles, comme les enfants, qu'il n'y ait pas par exemple de scènes obscènes ou choquantes aux heures de grande écoute, tout en garantissant la liberté d'expression. Mais la mission ne s'arrête pas là.
Notre institution, elle est là au service des Français fondamentalement. On régule, on s'assure du bon fonctionnement de ce paysage audiovisuel, de telle sorte qu'il respecte le cadre légal. On ne peut pas tout montrer à la télévision, on ne peut pas tout dire à la radio, on ne peut pas inciter à la haine, on ne peut pas tenir des propos racistes ou antisémites, inciter à la violence. Et bien évidemment, la protection de la jeunesse fait partie des éléments auxquels la loi prête une grande attention et nous confie comme mission d'y être attentif. Et donc la protection des mineurs vis-à-vis des écrans, bien on le fait de plusieurs façons. D'abord, il y a une forte sensibilisation par des campagnes de communication sur les petits-enfants, avec une campagne qui recommande de ne pas exposer les enfants avant 3 ans aux écrans. Il y a des campagnes de signalétique également, qu'on connaît bien sur les programmes, avec un petit pictogramme qui apparaît dans les écrans de télévision et qui une recommandation sur les catégories d'âge. Donc on a une action dans un tout autre domaine qui est en cours pour assurer une plus grande protection des mineurs à l'égard de l'accès aux sites pornographiques, puisque la loi interdit d'exposer des mineurs à des contenus pornographiques. Donc on a une action en direction de ces sites pour qu'ils mettent en place des dispositifs permettant de s'assurer que les personnes qui se connectent sont majeures. Donc, vous voyez, c'est un axe d'action qui est important pour nous parce que voilà, la loi fixe cette ambition générale d'assurer assurer une protection des jeunes publics par rapport aux programmes audiovisuels. Et puis sur Internet, de la même façon, sur les grands acteurs d'Internet, les réseaux sociaux, eh bien, on déploie maintenant de nouvelles actions pour mieux lutter contre les fausses informations, la manipulation de l'information, mieux lutter contre la haine en ligne. Et dernier volet que j'évoque rapidement, c'est l'éducation aux médias. Parce que ce qui est très important, c'est bien sûr d'avoir des règles, d'avoir un gendarme pour faire respecter ces règles, ce que nous sommes les gardiens de ces règles, mais ce qu'il faut, c'est aussi éduquer et que, très jeune, on apprenne à bien utiliser les écrans, à bien s'informer, à avoir l'esprit critique suffisant pour savoir apprécier ce qui est une information juste, une information qui est fausse. Et donc ce volet-là aussi, ce volet pédagogique, fait partie de nos actions.
Après la télé et la radio, l'ARCOM doit donc aussi maintenant faire en sorte que les règles soient bien respectées sur les réseaux sociaux.
C'est tout un nouveau champ de la régulation. La régulation du monde audiovisuel est ancienne, elle a plus de 40 ans d'histoire maintenant, et bon, grosso modo, il y a toujours des sujets, mais grosso modo, la télévision et la radio marchent bien. On est parfois amené à intervenir, parfois à prononcer des sanctions quand il y a des dérapages qui se commettent, mais grosso modo, c'est des médias qui fonctionnent bien parce qu'ils sont régulés. Les réseaux sociaux, on est au début de l'histoire. Et on va franchir en Europe une étape importante, puisque l'actuelle Commission européenne donc, a porté un texte qui vient d'être rendu public, un nouveau règlement européen, qui s'appelle le DSA, qui va imposer aux grands acteurs de l'Internet des responsabilités particulières pour lutter contre les contenus illicites sur les réseaux sociaux. Donc ils seront obligés, par la mise en œuvre de ce règlement, de déployer des ressources d'intelligence artificielle ou de modération humaine pour lutter contre ces contenus. Ils seront sous le contrôle de la Commission européenne, qui pourra prononcer des sanctions s'ils ne se conforment pas à ces obligations, avec des mécanismes d'audit également, qui permettra de s'assurer qu'ils déploient bien ces moyens. Donc on se dote de nouveaux outils, et le continent européen est de ce point de vue-là à la pointe. On est au début de l'histoire, c'était une étape essentielle de fixer ce cadre. Maintenant, il va falloir le faire vivre. Et dans ce cadre-là, comme je le disais tout à l'heure, le volet éducatif est important. C'est pas parce que on est derrière un pseudonyme qu'on ne doit pas adopter un comportement tout simplement citoyen sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un vecteur de communication, c'est un élément utile dans nos vies quotidiennes, de partage d'informations, d'échanges, de dialogue. Il ne faut pas que ce soit un espace de haine, de violence. Et donc il faut que cet espace arrive à se polisser. Et c'est ça l'ambition.
Et pour la télévision, l'ARCOM a lancé une nouvelle campagne autour des signalétiques. Vous savez, ces petits moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans à poser à l'écran pour avertir les parents et protéger les enfants d'images ou de sujets qui pourraient les choquer. Alors on peut se poser la question, comment l'ARCOM décide quel programme sera conseillé ou non aux moins de 10 ans, moins de 12 ou encore moins de 16?
C'est les éditeurs des chaînes de télévision qui sont bien évidemment responsables de leur programme. Ils ont une liberté éditoriale. La loi est très claire là-dessus. On est dans un univers où la communication est libre. Mais il faut, comme je le disais, qu'ils respectent un certain nombre de principes. Donc c'est eux qui opèrent cette classification, et si on estime qu'elle pose problème, qu'elle ne respecte pas... je prends un exemple simple que tout le monde comprendra pour les films. Les films font l'objet d'une classification. Quand un film sort au cinéma, il fait l'objet d'une classification par l'intermédiaire d'une commission qui est placée auprès du ministre de la Culture et qui décide qu'un film est interdit au moins de 16 ans, ou au moins de 18 ans, le cachant. Cette réglementation va se transposer quand ce film sera diffusé à la télévision. Et donc nous, on veille à ce que cette règle soit bien respectée. Voilà, il en va de même pour les autres types de programmes. Il y a des catégories de programmes sur lesquels on est amené à délibérer et à prendre des positions nous-mêmes. Je prends un exemple récent, nouveau, qui est une discipline sportive qui est maintenant... qui a un nouveau développement, qui est le MMA, qui est une discipline assez violente, qui relève de la Fédération française de boxe. Bon, on a pris comme parti de considérer que, compte tenu de la nature de ce sport, il valait mieux ne pas exposer des enfants de moins de 16 ans. Et donc ça oblige les éditeurs à diffuser ces programmes à une heure plus tardive, et à un moment où on peut penser que les enfants ne sont plus dans les écrans.
Et ces nouvelles campagnes de sensibilisation réalisées avec des jeunes sont à découvrir sur le site internet de l'ARCOM.
Sur Voltage, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là.
Hola, tu sabes que te quiero enamorar. Y esta noche vamos a darle rumba. Que nunca pare, que nos gusta bailar.
nos gusta bailar.
Mami, yo sé que tú me quieres. A mí, dime qué ritmo tú prefieres. Baby, la noche está para los placeres. Así, mami, yo sé que tú me quieres. Yo sé que tú me quieres.
Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te
toca, toca, toca.
Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca.
Tú sabes que me gustas, vamos a jugar. Trae a tus amigas que podemos janguear. Nena, no pares que hoy vamos a bailar. Hoy vamos a bailar.
Mami, yo sé que tú me quieres. A mí, dime qué ritmo tú prefieres. Baby, la noche está para los placeres.
Así, mami, yo sé que tú me quieres. Yo sé que tú me quieres.
Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca.
Toca, toca.
Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida, la vida. Te canta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida, la vida. Te canta la música, te toca, toca, toca.
La nuit, c'est le moment sur Voltage où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
L'invité du 10-15.
Je suis surexcité.
Oui, je vois ça.
Vraiment, je danse dans tous les sens, je suis trop content de te recevoir, Flo.
Bah, ça fait plaisir, moi je suis très content d'être là aussi, bonjour.
Florian Honneur est notre invité, on est en circuit court hein, aujourd'hui, je vous le dis. Mais vraiment, on est venu le chercher juste à côté parce que Flo, en fait, il bosse sur la radio Latina.
Oui.
Qui est vraiment collé au studio de Voltage.
Ah, mais je me disais que je vous avais déjà croisé quelque part.
Tu sais qu'on avait mangé ensemble à la cantine.
Ah, c'est toi la fille de la cantine qui prend deux entrées et trois plats.
Il a râlé parce qu'on n'a pas été le chercher en bas tout à l'heure du Oga.
Bah, vous m'avez dit, je suis invité. Les invités, vous allez les chercher en bas d'habitude.
C'est vrai.
Bon, alors Flo, je vous explique qui c'est, Flo. Vous voyez, quand il est genre minuit 30, vous êtes sur YouTube et vous tombez sur la vidéo de deux Indiens qui sont en train de construire genre une piscine en plein cœur de l'Amazonie. Et juste en dessous de la vidéo, tu vois un gars qui dit on va tester tous les fromages à raclette du monde. Tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Eh ben c'est Flo.
Ne fais pas l'innocent parce que tu connais l'algorithme de YouTube et de Google en général. Si tu tombes sur des vidéos ouais. de bouffe, c'est que Google a cerné que tu n'aimes pas que les Indiens qui construisent mais des murs.
J'ai tellement saigné tes vidéos. Tu sais qu'à cause de toi, j'ai vraiment commandé beaucoup trop de fois sur Deliveroo.
C'est vrai.
Mais attends,
quand tu regardes tard le soir, on m'a déjà raconté. Il y a des gens qui me disent ouais franchement, j'étais une fois il y a un couple qui m'a raconté. Ouais, on était dans le lit le soir, on regardait ta vidéo avant de dormir. Le bébé était couché et on a vu un burger. Le
mais
seul
oui.
truc qui était ouvert, c'était le fast-food à côté. À côté, on a pris le bébé, on est descendu à 1h
oh
du
non.
matin, tellement ça nous a donné faim.
Le mec, combien de fois j'ai commandé, genre en regardant ta vidéo, putain, non, mais non, attendez, parce que putain, le burger il m'a l'air quand même très très bon là. Bon, allez, on commande. Florian Nert est suivi par plus de 600 000 personnes sur YouTube. Tu fais des dégustations dans plein de restos un petit peu partout en Ile-de-France, un petit peu partout en France aussi.
Mm-hmm.
On va parler tout ça avec toi. Merci à toi d'être venu aujourd'hui dans le 10-15 de Voltage. Juste avant, on écoute Pink avec Irreleven sur Voltage, la radio parisienne. Merci de nous avoir choisi à Paris et dans toute l'Île-de-France. C'est vendredi aujourd'hui.
L'invité du 10-15.
Et lui, c'est Florian Honneur. Il est notre invité aujourd'hui dans le 10-15 de Voltage. Je suis très content de te recevoir. Flo, tu testes plein de restos en France, en Île-de-France. T'as une chaîne YouTube, Florian Honneur. Donc forcément, tu connais un petit peu la maison parce que oui, on se connaît puisque Flo bosse vraiment le studio d'à côté.
Bah oui, je fais la radio aussi à mes heures perdues.
Donc tu nous connais, Maud et moi, tu sais qu'on aime bien bouffer.
J'ai cru remarquer.
Mais ça se voit un petit peu, regarde.
Bon, ça se voit peu.
D'ailleurs, je sais pas comment tu fais toi pour manger autant. C'est le truc que je disais à Maud, je sais pas comment tu fais pour manger autant et ne pas prendre de poids.
Non, mais je prends un peu de poids quand même. Je fluctue.
Et
c'est
fais du sport aussi.
Ouais, j'essaye de faire du sport. Disons que l'hiver, quand on a les doudounes, les gros pulls et tout, ça va, ça se voit moins. En maillot de bain, bon.
Tu rigoles ou quoi, t'es hyper bien gaulé.
Non. J'ai débordé. Hein. Moi en fait je prends plus sur les côtés. J'ai ce problème qui est plus prendre sur les côtés que dans le ventre. Donc quand je regarde mon ventre, je fais ah bah ça va en fait. Et après quand je regarde dans le miroir, je fais ah ouais, non, ça se voit un peu sur les côtés.
Je pense que ça t'arrive parfois, genre tu sais d'aller vouloir tester un restaurant, tu te dis mais en fait j'ai pas du tout faim. J'ai vraiment pas du tout faim.
Non,
pas
ça m'arrive jamais.
Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours tout faim. La dalle.
Ah ouais, j'ai tout le temps la dalle. Et même si j'ai la dalle moyen, le gars il me propose sa carte, je vois les plats et direct j'ai envie. En fait, c'est toujours un plaisir. Franchement, j'y vais jamais la corde au cou en me disant faut que je fasse une vidéo, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Et puis quand tu rencontres des restaurateurs passionnés aussi, même si t'as pas faim, ils donnent faim en fait.
Mais c'est vrai qu'un jour, moi j'avais rencontré un mec qui fait des kebabs. Tu te dis, bon, un kebab, c'est tout simple et tout. Mais le mec faisait vraiment tout, mais absolument tout, maison. Les légumes, il les faisait pousser dans son jardin. Et ben, le fait de rencontrer un mec comme ça qui était hyper passionné, mais t'avais vraiment envie de manger son kebab, même si t'avais pas faim sur le moment, tu vois.
Bien sûr, et la street food, elle est vraiment montée en gamme ces dernières années.
Ouf.
Aussi bien les burgers que même les kebabs, hein, alors qu'à la base, les kebabs, c'était vraiment synonyme de malbouffe. Bon, faut pas en manger 3 par jour, bien sûr. Mais quand le mec fait son pain maison, sa broche maison, sa sauce maison, bah c'est de la cuisine, quoi. Hein.
Mais moi, je suis un peu middle sur les kebabs qui sont trop bien faits.
Pourquoi?
Parce que quand je prends un kebab, je veux prendre des risques.
Ah,
je veux risquer une intoxication alimentaire. Je veux pas qu'on me foute de la grenade dans mon kebab.
Je comprends ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à la base, quand tu vas dans un kebab, tu vois, c'est un kebab, c'était pas forcément propre par terre, limite il y avait du sang sur les murs et tout. Et maintenant il y a une boboisation du kebab.
Oui,
on le voit. Ah oui, à Paris d'abord, et ça part. Maintenant, tous les jeunes qui créent un kebab, ils font le Berliner kebab. Donc c'est inspiré par le kebab qui est né à Berlin, par l'immigration turque qui est arrivée notamment dans les années 80. Et là-bas, ils font, d'ailleurs même en Alsace c'est la même chose, il y a beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de crudités, il y a du chou rouge, c'est pas juste salade, tomate, oignon. Et donc depuis quelques années, il y a d'abord un Berliner kebab qui est arrivé à Paris, qui était du côté de Oberkampf, Voltaire par là. Et maintenant, j'ai l'impression que tous les jeunes qui ouvrent un kebab, c'est le Berliner kebab. Donc on te rajoute de la grenade dessus, du chou rouge, et t'as limite l'impression que c'est healthy tellement il y a de légumes. Mais il y a la viande et le pain quand même. Hein.
Ouais, et puis ça coûte plus cher en plus, mine de rien, les Berliner kebabs. Ouais. Alors que avant t'as la formule kebab avec ta boisson, tes frites à 8 euros.
Ouais, même moins, il y a des endroits. Et puis quand tu vas en France, quand tu te balades un petit peu, il y a des endroits, c'est 4,50, 5 euros.
Ah ouais.
En région parisienne, 5-6 euros. Et là maintenant, ça monte à 8-10. Hein.
C'est fou, moi à mon époque, tu mettais 4,50 euros, t'avais frites, kebab, boisson. Hein.
Alors t'imagines à la mienne. Je suis plus vieux que toi.
Flo, on avait envie de te demander avec moi, c'est quoi les. Genre, si tu devais nous citer les meilleurs restos que t'as fait en Ile-de-France, pas forcément juste à Paris, en Ile-de-France, les meilleurs trucs que t'as testé.
Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est une question. Souvent dans la rue, les gens m'arrêtent, c'est quoi le meilleur resto que t'as testé? J'en teste tellement. J'en suis à presque 1400 vidéos. J'ai un petit peu de mal à répondre. Donc après je peux vous répondre comme ça. C'est si on veut en région parisienne, à Bagnolet. Alors il y a une histoire super, ça s'appelle Madame Tourte. Et elle à la base, c'est en plein cœur vraiment d'une cité, d'un ensemble d'immeubles. À la base, c'était un local à vélo qu'elle a réussi à avoir légalement, hein, par le syndic, la copropriété et tout. Elle en a fait un petit resto. Donc c'est au début ça a démarré limite comme un food truck. Mais au final c'est du dur. Hein. Maintenant elle a fait une petite terrasse, elle a fait un truc, elle a fait une petite déco trop sympa. Et donc elle fait des tourtes. On connaît les tourtes, hein, de la pâte dessus, de la pâte dessous, et tu fourres en fait à toutes les recettes que tu veux à l'intérieur. Donc elle fait soit les recettes vraiment fat comme aiment ceux qui mangent les tacos ou les kebabs ou autre. Donc elle peut effectivement te mettre tout et n'importe quoi dedans si tu demandes cordon bleu, merguez, boulette. Mais elle fait aussi des vraies recettes travaillées à l'intérieur qui te font voyager un petit peu à travers le monde. Moi, il y en a une avec un super bœuf qu'elle met dedans, qu'elle marine elle-même. Elle te met les alocos, les bananes plantains qu'on mange beaucoup sur tout le continent africain d'ailleurs, même aux Antilles et ailleurs. Une petite sauce qu'elle fait maison et ça s'appelle Madame Tourte. C'est à Bagnolet. Franchement, j'aime beaucoup. Après, faut me dire en fonction de vous voulez. Vas-y, donnez-moi un thème.
Non, mais c'était bien. Et un autre resto du même genre.
Genre elle, par exemple, Maud, elle a des petits trucs là, gros comme ça, qui crient un peu partout.
En vrai, c'est un vrai problème parce que quand t'as des enfants, souvent les restaurants, quand tu arrives, ils te regardent un peu de haut et ça les embête parce que les enfants, ça fait du bruit, et que ça gêne un peu les autres clients. Est-ce qu'il y a des restos qui sont un peu ce qu'on appelle kids friendly où tu peux avoir des chaises hautes, même une table allongée dans, tu vas dans les toilettes.
Il y en a de plus en plus, même des jeux pour les enfants.
Ah ça c'est bien.
Il y en a un que je connais.
Ça s'appelle le McDo.
En vrai, c'est là où je vais avec mes enfants.
Hein. Non, mais il y en a un à Bondy, le Harris Café. Donc ça, c'est très connu et c'est en mode fast casual. C'est-à-dire qu'ils cuisinent vraiment maison. Ils font plein de choses à manger, aussi bien en mode fast-food que des plats. Il y a des plats du jour, des fois ils font des tagines, des fois ils font des trucs. Enfin, ça ratisse vraiment large. Et eux, donc au Harris Café à Bondy, il y a carrément, je crois, limite une piscine à boules pour les enfants. Il y a des jeux et tout. Et il y en a un autre au Vert Saint-Denis, c'est dans le 77, à côté de Melun. Ça s'appelle Place to Eat. Là, c'est en mode food court. C'est-à-dire que t'as 6 enseignes de resto qui ne sont pas, qui ne dépendent pas les uns des autres.
Ouais.
Donc t'as un thaï, t'as un indien, t'as un kebab justement, t'as du burger, du smash burger, bref t'en as 6 comme ça. Il y a des tables et il y a même des bornes de jeux pour les enfants. Je crois qu'il y a même limite une table de ping-pong.
Ah c'est trop bien ça.
Et là pour les familles c'est vraiment bien, ça s'appelle Place to Eat et c'est au Vert Saint-Denis qui n'est pas à côté de Saint-Denis, c'est dans le 77, hein, c'est un faux ami.
On redonne les deux week-ends.
On redonne les deux adresses, la première donc c'est à
Harris Café à Bondy pour les enfants avec plein de jeux pour les enfants, ouais. Et Place to Eat au Vert Saint-Denis dans le 77.
Je sais pas si c'était une bonne idée de t'inviter genre là sur les coups de midi 15.
Ah, ah. Si mais vous allez me trouver ce week-end hein,
voilà. Va faire la tournée avec ses enfants pour tester.
On continue de parler avec toi Flo juste avant, voici Offenbach sur Voltage.
L'invité du 10-15.
Tu vois, t'es pas trop dépaysé. On passe du Calema, nous aussi, sur Voltage.
Eh oui, c'est vrai que sur ma radio, on passe aussi du Calema.
Ouais,
on l'a passé avant vous.
Florian Nair est de t'inviter cet après-midi sur Voltage. Je dis ça parce qu'il travaille vraiment dans la radio d'à côté. Hein. C'est-à-dire vraiment, Latina, c'est à 3,50 m du studio de Voltage.
C'est, regardez, écoutez. Voilà. Je tape sur le mur, à côté, c'est Latina.
Alors, Flo, tu bosses sur Latina, mais tu bosses aussi sur YouTube. Tu bosses pour, tu bosses pas pour YouTube non plus.
Non.
Tu fais des vidéos sur YouTube où tu vas tester plein de restaurants partout en France, partout en Ile-de-France. On est à combien de restos à ton actif?
Bah écoute, je sais pas, j'ai fait près de 1400 vidéos, donc voilà. Plus parce que je vais aussi au resto quand je fais pas de vidéos pour mon plaisir personnel, donc ça en fait.
Comment t'as eu envie d'ailleurs de démarrer les vidéos sur YouTube?
En fait, j'ai découvert, c'est à la fin de l'année 2015, j'ai découvert le format vlog. En fait, c'était l'époque où il y a Snapchat qui commençait à fonctionner et tout, mais Snapchat c'était embêtant, ouais. À l'époque parce que c'était juste, fallait faire des vidéos de 15 secondes et tout, et on pouvait pas raconter trop de trucs. Et donc j'ai découvert le format vlog où en fait tu te filmes toi-même avec ta caméra et tu vas où tu veux. T'as pas besoin d'avoir un monteur, un preneur, ouais. De son. Si le matin à 9h je décide d'aller dans un endroit, hop, je peux y aller direct. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans le format vlog. C'était pas 100% bouffe à l'époque. J'emmenais les gens avec moi dans mes activités, donc ouais. La radio, le ciné, les spectacles. Et comme je suis toujours allé beaucoup au restaurant, bah c'est vrai que 2-3 fois par semaine il y avait des vidéos où j'allais au restaurant et j'ai démarré, donc oui j'avais 0 abonné, donc j'avais 50 vues par jour, personne ne regardait. Je m'étais fixé le défi de faire une vidéo par jour toute l'année 2016 et le petit frémissement au niveau des vues, c'est à chaque fois que j'allais au restaurant. Donc à la place qui est 50 vues, il y en avait 200, tu vois, mais pour moi c'était énorme, 200 vues, voilà. Et donc petit à petit j'en ai fait de plus en plus et puis j'ai eu 1000 abonnés au bout de 3 mois. Après ça allait assez vite et il y a un jour j'ai mangé un burger à 6 steaks et là c'était l'explosion, j'ai eu plein d'abonnés qui sont arrivés d'un coup. Et donc j'avais commencé en janvier, à partir du mois de mai je me suis dit on va faire le produit d'appel, la nourriture, ça n'empêche pas de parler d'autre chose parce que je peux recevoir des artistes, ouais. Je peux aller manger avec un gars qui a une association qui veut en parler, mais toujours autour de la nourriture, c'est le produit d'appel, c'est ça qui attire les gens. Et puis après, avec la nourriture, on peut voyager, on peut faire plein de choses et décliner plein de sujets.
C'est laquelle la vidéo qui a fait le plus de vues pour le moment?
Alors, c'est l'une des vidéos de mes débuts en fait, où j'avais
testé. C'est le truc à côté de Notre-Dame?
Non, c'est les tacos.
Non, c'est les tacos, ouais. C'était le giga tacos à l'époque. C'était un gros tacos. Donc le French tacos, c'était la mode où il y a l'époque où il y a une grande enseigne de tacos qui commençait à se développer partout en France. Et moi, je voyais qu'il faisait un giga tacos, c'est-à-dire un énorme tacos de 2,5 kg qui fait la taille d'un plateau avec à l'intérieur merguez, cordon bleu et ainsi de suite. Ouais. Et j'ai voulu tester le concept marketing parce que je trouvais que tout le monde commençait à en parler. Et
c'est
en fait.
C'est pas le tacos, si tu arrives à le finir, on te le rembourse?
Ouais, exactement. Et donc, bon, je l'ai pas fini, mais la vidéo, en tout cas, elle a fait, je crois, ce jour, elle en est à 4 millions de vues. Il y a encore des gens 6 ans et demi après qui me découvrent avec cette vidéo. C'est ça, c'est la énorme. Force de YouTube. C'est pas comme par exemple TikTok où ça disparaît au bout de quelques jours. Et donc alors, c'est pas la vidéo qui me résume le plus, mais je ne peux pas la renier. Voilà, c'est un peu aussi comme les chanteurs des années 80, ils en ont marre qu'on leur parle toujours du même tube. Enfin, moi à chaque fois ils font Gigatacos Florian Nair.
Mais moi en vrai j'ai la vraie histoire de pourquoi t'as commencé ça. Parce
pourquoi
que je me rappelle, tu m'avais dit c'était une résolution de la nouvelle année. Tu voulais faire une vidéo par jour en fait t'es timide et ouais. C'était une façon de contrer ta
aussi,
timidité.
Tout à fait, parce qu'il faut aller aussi vers les gens. Mais je suis toujours timide. Hein. Alors maintenant quand je vais dans un resto, il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que dans le milieu de la restauration, ouais. Je connais un petit peu. Mais oui, au début j'arrivais avec ma caméra, le restaurateur il me disait il est chelou celui-ci avec sa caméra. Et là, non, ça fait partie des trucs, ouais.
Il y a pas longtemps t'es parti tourner une vidéo aux États-Unis pour une belle occasion, c'était la Coupe du Monde des burgers.
Ouais, à Dallas.
Énorme. Comment ça s'est passé?
J'ai suivi la Team Burger France. En fait, il y a aussi la Coupe du France de France du burger.
Okay.
J'étais jury d'ailleurs cette année. Et il y a un gars qui était champion de France l'année dernière, qui a emmené deux autres gars et qui a dit on est champion de France. Là, il faut qu'on tente la Coupe du Monde de burgers. Donc tous les ans, c'est dans un état différent des États-Unis. Cette année, c'était au Texas, à Dallas. Et donc j'y suis allé avec eux comme ça pour les suivre un petit peu en mode donc on habitait dans la même villa et au jour le jour j'ai vécu avec eux toute l'évolution, toute l'aventure, tous les burgers, les hauts comme les bas, parce qu'il y a des moments où ils avaient des coups de mou et tout ça, et comme je sortais les vidéos au jour le jour, bah dans les commentaires les gens leur remontaient le moral et tout. Ah. Et au final, ils sont arrivés deuxième.
Ah, c'est
énorme,
bien, hein,
fort.
Derrière des Américains, mais c'était la première fois que la France participait et donc bon ils étaient déçus, ils voulaient être premier, mais attends,
c'est déjà vachement bien. Hein.
Bah oui, c'est énorme quoi.
Mais alors du coup le mythe des burgers américains qui sont archi bons, c'est vrai ou faux?
Alors ça dépend ce que t'appelles bon, en fait on n'a pas la même culture. Ici en France, on a vraiment la culture du burger gourmet de plus en plus, ouais, avec une bonne viande, un bon fromage. Voilà, donc eux, ils avaient fait venir des fromages de France et tout. Les Américains, des fois, ils en ont rien à faire. Hein.
Tu, bah, leur mets, c'est le cheddar,
tu leur mets un gros cheddar, tu leur mets trois steaks et une sauce barbecue, ils sont contents, tu vois. Donc c'est les différences de culture. Après, bon, pas bon, bah ça dépend. Hein. C'est les goûts et les couleurs.
Mais il y avait genre tous les pays du monde qui étaient présents.
Non, pas tous. Pas tous. Il y avait sur 28 équipes, il y avait déjà, je crois, 22 équipes américaines.
Ah oui.
Mais c'était la première année où ils recevaient des équipes. Il y avait une équipe japonaise, une équipe de Dubaï, il y avait l'équipe française, il y avait quelques équipes.
Tu les as tous goûtées?
Non, bah non, malheureusement, moi j'étais avec les Français, j'étais pas dans le jury, donc ouais, j'ai goûté que le burger des Français, je peux pas comparer.
Flo est avec nous jusqu'à 13h sur Voltage. Florian Honner, si vous avez des questions à lui poser, il y a le WhatsApp de l'émission aussi. Je sais pas où est le téléphone, mode,
bah,
on va le trouver.
Il est là. Qui est parti avec le téléphone?
Le WhatsApp de l'émission 07 80 80 64 64 et revient dans un instant, juste après Beyoncé. Alors Flo, ce petit Maneskin, on en pense quoi?
Il fait du bien.
The Lonelier sur Voltage.
Quand on a faim comme ça. L'invité du 10-15. Ça nous fait penser à autre chose au moins.
Florian Honner est mon invité ce midi sur Voltage, la radio parisienne. Florian qui teste à peu près tous les restos du monde tous les jours.
Tous les restos du monde tous les jours. Je suis Joséphine Ange Gardien, je me téléporte partout.
Flo, je plaide coupable, j'ai déjà volé des trucs dans des restos. Je pense notamment au sel de chez Buffalo Grill avec le mélange spécial grillade. Il se trouve que je l'ai déjà un petit peu piqué.
Mais il y a le récipient ou c'est juste le sel?
Non, le récipient il est parti avec aussi.
Il paraît que ça part vraiment dans les restos. Le poivre, le sel, c'est ce qui part en premier. Hein.
Et en ce moment chez McDo.
Ouais.
Toute la nouvelle vaisselle là.
Ouais, la nouvelle vaisselle, parce que normalement ils ont plus le droit de nous donner des trucs à jeter, ça doit être réutilisable. Ouais. Et les gens les volent depuis 15 jours que ça a commencé, là, depuis le 1er janvier.
Et ça me fait rire parce que tu sais, ils disent que la vaisselle de McDo elle est géolocalisable.
Ouais.
Calmez-vous. On va pas te retrouver si tu pars avec à l'autre bout de l'Île-de-France. Je pense pas qu'il y ait une map non plus.
Est-ce que la police peut débarquer chez nous en disant vous avez piqué un verre McDo?
On parlait de ça avec toi l'autre jour, Flo, hors antenne, parce que on le croise souvent vu qu'il bosse vraiment dans la radio d'à côté. On parlait de toi, t'as des restaurateurs qui t'ont dit qu'en fait on pique pas mal de choses, il y a pas mal de clients. Ouais.
Tout, mais même des trucs, alors les couverts, ok, c'est classique, le sel, le poivre. On m'a dit les petites ardoises sur lesquelles ils écrivent soit le plat du jour et tout ça.
Non.
Pareil, les gens ils les volent, comme ça après les enfants ils peuvent dessiner dessus à la maison. Et il y a un restaurateur, ils ont tous des anecdotes. Le pire qu'on m'a raconté, c'est qu'un restaurateur me raconte qu'un jour après le service, il va aux toilettes. Il n'y avait plus la cuvette des toilettes.
Quoi?
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un client, qui est parti avec la cuvette des toilettes quand même.
C'est quand même le truc le moins hygiénique au monde.
Sachant tous les gens qui sont assis dessus, tu repars avec ça chez toi. Et surtout, personne ne l'a vu partir du resto avec la cuvette sous le bras.
Mais est-ce qu'au moins c'était un resto classe, genre la cuvette elle était en marbre?
Non, mais moi je sais
ce
qui s'est passé.
C'était une cuvette normale, j'imagine.
Le gars il a fait un truc sur la cuvette, il voulait pas que ça se voit, il a pris la cuvette avec lui, et c'est tout.
Bah, ça m'étonnerait, les gens ils s'en foutent, hein, ils font partout en resto, ils en ont rien à faire.
Et bon appétit.
Bien sûr.
Flo, on était trop content de te recevoir ce midi sur Voltage. On va mettre toutes les bonnes adresses que tu nous as dit tout à l'heure sur l'antenne, on va partager ça sur les réseaux sociaux.
Ok.
Et puis on a une petite tradition aussi ici sur Voltage, on laisse à l'invité choisir un morceau.
Ah là là, ça c'est un luxe.
Bah
hein.
Ouais, fais-toi plaisir.
Ah, je vous ai dit, j'ai toujours du mal à choisir un resto, à dire quel est le resto préféré, j'ai du mal à choisir un morceau, mais là comme c'est vendredi, un petit peu de dance music des années 90, parce que moi c'est ma génération quand même. Hein.
Corona, ça peut faire plaisir.
Corona, the rhythm of the night.
Rhythm of the night.
Yeah. Rhythm of the night.
Merci Flo, passe une belle journée et on
merci
est sur Corona sur Voltage.
Bonne nuit sur Voltage. Voici votre musique préférée. Vous êtes sur Voltage. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Voltage Dance Music.
Voltage Dance Music, c'est un vrai kiff vraiment de la recevoir ici dans le studio à Paris. Si son prénom ne vous dit peut-être rien, on sait jamais. Sa voix, en tout cas, vous la connaissez obligatoirement. C'est une artiste Voltage que vous entendez chaque jour. Léonie est mon invitée. Bonjour Léonie.
Bonjour.
Ça va, tu vas bien?
I'm good, how are you?
Elle va bien et toi?
Bah, très bien, très bien. Est-ce que le temps parisien te convient ou un petit peu de soleil, ce serait mieux?
Yes, definitely. I hate this, but actually it's the same as in Berlin where I live since 4 months now, so it's like no different, so I'm used to it.
Ouais, alors bon, elle dit que c'est pas l'idéal, mais en même temps c'est comme ça depuis 4 mois à Berlin, là où elle habite. Donc c'est vrai qu'un peu de soleil n'aurait pas été de trop.
Et ben justement, tu viens de le dire, Léonie, tu es allemande. Pour récapituler un petit peu ton début de carrière, en 2014 tu as gagné un télécrochet en Allemagne, Rising Star. Et en 2024, c'est aujourd'hui, et ben tu es connue dans le monde entier. Donc tu as maintenant 10 ans de carrière, c'est fou. Comment tu résumerais ces 10 années?
Exciting, very short now that I think back that the show is already 10 years ago. There's so many amazing things happening and I've dreamed about this since I was 4 years old maybe. Always wanted to be a singer, always wanted to be on stage, so I'm very happy and grateful about everything.
Elle est très heureuse et surtout reconnaissante parce que ça fait depuis qu'elle a à peu près 4 ans qu'elle rêvait de faire ça. Et puis comme tu viens de le dire, l'émission de télé qu'elle a remportée, ça fait 10 ans, donc elle a même pas l'impression que 10 ans sont passés, c'est passé très vite. Mais elle est surtout, elle trouve ça très excitant et une aventure de folie.
C'est une question que j'aime bien poser, 10 années de carrière, donc on vient de le dire, 10 ans qui sont passés très très vite. C'est quoi le... Est-ce qu'il y a un secret pour durer dans le temps?
I think staying true to who you are. Have a great team around you and I think the love for the music just guides me through everything basically. So there are times where it doesn't work out the way you want to and then there are times where everything works out. So just, you know, never give up and just, you know, stick through and enjoy the ride.
Ouais, alors toujours y croire, ne jamais laisser tomber, bien s'entourer. Voilà, elle dit qu'il y a des moments où les choses se passent comme on le voudrait, des fois non, mais voilà, il faut un petit peu se laisser porter et voilà, bien s'entourer et surtout prendre du plaisir.
Bien s'entourer, c'est le moins qu'on puisse dire parce que en 2020 quand même, un titre énormissime qui est devenu un tube avec Pascal Le Toublon sort, Friendship, sur lequel tu as posé ta voix. Tu t'attendais à un succès pareil ou pas?
I didn't expect that much success because when the song came out it didn't do anything for like half a year or something or even longer, maybe a year, so I kind of not forget about the song, but I was like, okay, well, it's done, it's not gonna work out. And then suddenly, like, German radio picked it up. In France, it went, like, super high on radio, and I was like, oh, wow, okay, it's coming.
Alors,
back.
Non, elle s'y attendait pas, parce qu'en fait, quand la chanson est sortie, pendant 6 mois, voire plus, voire presque un an, il s'est rien passé, ça a pas vraiment marché. Et puis d'un coup, elle est rentrée en radio en Allemagne, après en France, ça a commencé à cartonner partout. Donc en fait, elle pensait plus trop au titre, elle était un petit peu passée au projet suivant, et puis en fait, ça a explosé, donc elle s'est dit, ah, ok, donc, ok, on est reparti sur ce titre.
C'est une partie peut-être grâce aux réseaux sociaux, non? Parce que je sais qu'il y avait une trend qui est arrivée où tout le monde faisait du shuffle et tout sur cette musique.
Maybe it did, yeah, because Pascal released the song before without the vocals and already this one was a big success on social media and then they did the same thing again with the vocal version. Whatever reason it is, I'm happy it happened.
Mais voilà, quelle que soit la raison, elle est très heureuse, mais oui, sûrement que les réseaux ils sont pour quelque chose. Et d'ailleurs, comme elle nous le disait, Pascal avait sorti d'abord sur les réseaux justement le titre sans voix et ça avait déjà pas mal marché et ensuite il l'avait ressorti avec la partie voix.
Léonie, j'espère que tout se passe bien, ça va, t'es bien installée, on s'occupe bien de toi, tout va bien.
Yes, you are very good, thank you very much.
Tout va bien, merci.
Je l'ai dit tout à l'heure, tu as travaillé avec beaucoup de producteurs, d'artistes au fil des ans comme Vice, Niklas D, Pascal Le Toublon ou encore Sam Felt. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu n'as pas encore collaboré mais avec qui tu aimerais collaborer?
There are a lot of artists I want to work with together. I think it's so nice to collaborate with other artists because it's always two creative people coming together. Also a lot of great DJs. I mean, of course, you know, always aim for the big ones. David Guetta.
Donc David Guetta, bien sûr, pourquoi pas. Bon, elle dit que c'est toujours génial de faire des collabs parce que c'est un peu deux créativités différentes qui se mélangent et qui se rencontrent. Donc il y en a plein qu'elle aimerait faire. Mais voilà, en parlant de DJ, elle disait évidemment David Guetta.
Je sais que David Guetta écoute Voltage. Zara Larsson était passée nous voir aussi il y a quelques temps, qui a travaillé avec David Guetta. Et normalement, on vient peut-être venir nous voir, on sait jamais. On lui parlera de toi et on essaiera de créer cette collaboration.
Thank you very much and tell him hi from me.
Bah,
Merci et surtout dites-lui bonjour de sa part.
Avec plaisir. C'est quoi tes sources d'inspiration en ce moment? Est-ce qu'il y a des artistes ou alors des genres musicaux qui t'influencent?
I listen to so much music from like all over genres, all over like time. Even like I grew up with like 60s, 70s, 80s, 90s with my parents. So just a lot of music from all over the place. And then of course, you know, there are great artists right now, especially female artists, you know, Dua Lipa, Sara Larsson, as you just said, Miley Cyrus, Lady Gaga. There's so many great pop female singers that I look up to, but I also try to always, you know, be myself and not, you know, be too much someone else.
Oui, alors elle essaie toujours de rester elle-même, d'être authentique et pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Mais alors bon, il y a plein de chanteuses féminines pop en ce moment qui sont géniales, genre Miley Cyrus, Lady Gaga, Dua Lipa, Zara Larsson dont on parlait. En même temps, elle a aussi grandi toujours en écoutant avec ses parents de la musique, que ce soit des années 60, 70, 80, un peu toutes les décennies, un peu tous les genres différents, beaucoup beaucoup de musique différente. Donc elle a toujours baigné là-dedans, quoi, beaucoup de musique.
T'as quand même travaillé avec beaucoup de DJ ou producteurs, au final, beaucoup de dans la musique électronique, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la musique électronique?
In my teenage years, I mostly listened to dance music, so it reminds me a lot of my, you know, the first time going out, school, and like after school that time, and I love that, and I think dance music is so huge because it lets people go for a second, you know, it just, I feel like it makes you free, you want to dance, you're in a good mood, and I love that about dance music.
Alors elle a grandi en écoutant, surtout la période adolescente, en écoutant beaucoup de dance, donc ça lui rappelle justement ces années-là, les premières sorties, l'école, après les cours, etc. Et elle dit que la dance, c'est quelque chose qu'elle adore parce que ça permet aux gens de s'échapper, de vraiment de s'amuser, de s'éclater, de lâcher prise, et elle trouve que c'est un peu le rôle de la musique aussi.
Un morceau qu'on diffuse beaucoup aussi en ce moment, en septembre 2023, tu sors un banger avec Niklas D et Vise, I Can Feel. Comment s'est fait ce morceau? Je veux tout savoir.
This song happened like every other song we make basically. I work together with the same guys for 5 years now, and we just been in the studio and we were like, one of my producers had this idea of this drop thingy, but we wanted to make like a, you know, the collaboration between like super dance from Vise and Niklas, but also have it like pop and like a bit chill in the verses and in the pre. And yeah, the song came together pretty quickly. We loved it all and we said let's do it.
En fait, elle était en studio. Enfin, elle dit que la chanson s'est faite un peu comme toutes les autres chansons. Ils étaient en studio, elle bossait avec les mêmes personnes, la même équipe depuis à peu près 5 ans. Et voilà, ils sont venus avec ce petit son là qu'on reconnaît facilement. Ils ont voulu mélanger un peu le côté super dance et pop. Et ça s'est fait assez facilement en quelques jours en fait. Et le titre est né comme ça.
Léonie, autrice, compositrice, interprète. Et Léonie, tu as fait pas mal de reprises de tubes aussi qui nous ont marqué au fil des années, comme Dolly Song, que j'aime beaucoup, Faded Love, avec le petit air d'Ozone Dragosta Dintei derrière, mais ce sont tes paroles, c'est bien toi qui les as écrites.
Yeah.
Il y a aussi Monsoon de Tokyo Hotel. C'est des chansons que tu aimais bien et tu t'es dit tiens, j'aime bien la sonorité, j'aime bien l'artiste ou quoi, j'ai envie de reprendre un petit peu, ou qu'est-ce qui te passe dans ta tête à ce moment-là quand tu fais ces morceaux?
99%, it's like I love this song, let's do it again.
Oui, 99% right now, des cas, so c'est se dire j'adore ce titre, et j'ai envie de faire une version moi-même. Et puis ce qui est génial et que c'est très à la mode en ce moment, c'est de reprendre un peu les morceaux un peu plus vieux et de les réactualiser. Donc c'est ce qu'on fait quand on fait une reprise, parfois avec ses propres paroles, une autre mélodie qui est la sienne. Donc voilà, on transforme un peu une œuvre d'art qui est déjà une œuvre d'art, mais en quelque chose de différent.
Tu disais que c'est aussi un petit peu la mode de reprendre des anciens morceaux, de les retravailler un petit peu à la sauce 2024. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ça? Pourquoi, d'après toi, comment tu expliquerais que ces morceaux-là qui ont bercé peut-être notre enfance ou notre adolescence ou notre vie de jeune adulte reviennent à la mode en ce moment?
I think it's a combination of two things. First of all, nostalgia, as you said, and I think also this might be a problem as well, since like social media and TikTok, I think we have such short, like we can't concentrate anymore.
Attention span. So ouais, alors c'est deux choses. Il y a le côté nostalgique, effectivement, de se dire que c'est un titre qu'on aimait quand on était plus jeune il y a quelques années, qui est remis au goût du jour. Et il y a aussi quelque chose qui est pas forcément positif, c'est qu'avec toutes les réseaux sociaux aujourd'hui, la durée de concentration ou d'écoute est assez rapide. C'est-à-dire que les gamins veulent du nouveau, et que ça aille vite. Donc quand on a une reprise, justement, il y a ce côté ah, ça me dit quelque chose, mais il y a aussi une partie nouveau, donc ça m'intéresse. Et du coup, grâce aux réseaux sociaux, elle pense que c'est pour ça que ça marche.
Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Je vous le rappelle, Léonie est mon invitée ici sur Voltage. Léonie, je le rappelle, tu es allemande et tu es connue dans le monde entier. Je me posais une question. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique et est-ce que tu écoutes des musiques des artistes français?
I listen to all kinds of music, as I said before. Mostly actually also not so much the current music, but like I love the 2010s and like even older, like, you know, Michael Jackson, Queen, the like big artists from before. I know, you know, Pascal Le Dublin, of course. I love, wait, what's his name? The Alors on Danse.
Stromae.
I love his music. But also I have a hard time listening to other French music because I don't understand.
Oui, obviously. C'est pas évident d'écouter la musique en français parce qu'elle comprend pas les paroles forcément, mais bon voilà, elle aime bien Stromae comme elle disait, elle écoute aussi bien du Michael Jackson que du Queen et beaucoup surtout de musique des années à peu près 2010, pas forcément des choses actuelles dans ce moment.
Je te rassure, j'écoute pas mal de musique anglaise américaine mais je ne comprends quand même pas les paroles.
He listens to English songs but doesn't get the lyrics either, so.
À quand un concert en France, Léonie?
I hope soon. I don't know yet, but I would love to come back. It's actually my first time in France right now. I've never been in Paris, never been in France.
C'est la première fois à Paris, première fois en France.
Yeah, so I'm down whenever you
are. Alors, ouais, elle espère bientôt. Il n'y a rien de prévu pour le moment, mais elle adorerait revenir et faire un peu de scène. Donc voilà, elle espère bientôt.
Bah, avec plaisir, dans tous les cas, on suivra ça de près. On vous tiendra au courant, bien entendu, du prochain concert de Léonie ici en France. On va faire quelque chose pour terminer que on n'a jamais fait ici sur Voltage. Mm-hmm. Ça va être la première fois, ne t'inquiète pas, il n'y a rien.
Don't worry.
Je te pose plein de questions depuis tout à l'heure, mais là ça va être à toi de poser une question, mais tu vas pas me la poser à moi la question, mais tu vas la poser au prochain invité qui viendra ici sur Voltage, qui sera assise à ta place. Alors ça peut être un garçon, une fille, un groupe, un DJ, un musicien, un acteur, je ne sais pas, mais et quand la personne sera là, je lui ferai écouter ta question et cette personne devra y répondre.
Okay, let me think for a second.
Elle réfléchit.
Bah oui.
If you could be anything in the world job wise, would you still be a musician?
Alors en termes de carrière et de profession, si la personne en question pouvait faire n'importe quoi à part de la musique, qu'est-ce qu'elle ferait?
Bah c'est une super question. On la posera donc du coup à notre prochain invité qui viendra ici dans les studios et on te fera parvenir la réponse, ne t'inquiète pas. Merci Léonie d'être passée nous voir.
Thank you for having me, merci.
Oh, le petit mot français qui fait plaisir. Si vous venez d'arriver, Léonie était mon invitée sur Voltage. Si vous avez raté une petite partie, ne vous inquiétez pas, c'est déjà dispo là maintenant sur voltage.fr. Merci Léonie.
Merci.
Voltage.
Voltage.
Dance Music.
Vous avez appris des choses sur Voltage. Alors continuez de nous écouter, parce que ce n'est pas fini. Bonne écoute.
Des fois, quand on regarde l'actu, on a l'impression qu'il n'y a que des infos négatives. Et si, pour une fois, on s'intéressait aux infos positives? On va interviewer, là, aujourd'hui, Catherine Testa, cofondatrice du site l'optimisme.com.
Là, c'est vraiment trajectoire de vie. Vous devez avoir à peu près mon âge, la trentaine, non?
37.
37?
36.
Donc, j'imagine que vous n'avez pas fait ça toute votre vie.
Absolument pas.
Je veux savoir ce qui s'est passé pour qu'un jour, vous ayez envie de créer l'optimisme.com.
Bah c'est tout simplement qu'à un moment donné, moi j'ai vécu aux US pendant très longtemps et je me suis rendu compte que là-bas on avait envie d'agir, on était baigné dans de l'optimisme, parfois un peu trop d'ailleurs, et qu'en France, quand je revenais en France, on ne voyait que ce qui n'allait pas et de ne voir que ce qui ne va pas, on n'ose plus agir. Et je me suis dit qu'il fallait absolument mettre en avant les initiatives positives dans la société, qu'on se soit dans le milieu du travail, dans l'éducation, dans la santé, afin de donner aux autres l'envie eux-mêmes d'agir et d'être un peu proactifs.
D'accord. Et vous faisiez quoi avant de faire ça, du coup?
Alors, j'ai travaillé des années dans le développement durable, dans le domaine du développement durable. Du coup, quand on travaille dans le domaine du développement durable, on se rend compte de toutes les catastrophes qu'on peut engendrer, mais l'action, elle est individuelle. Et j'avais envie de montrer, en fait, qu'on pouvait agir.
Alors, du coup, l'optimisme.com, il existe depuis?
Depuis 2016.
Ah oui, ça fait un petit moment.
Janvier 2016.
Ok. Et ça marche bien, du coup?
Ben aujourd'hui, on est suivi, ouais, par plusieurs centaines de milliers de personnes. Et on travaille beaucoup aussi dans le milieu de l'entreprise, in fine, parce que il faut essaimer de l'optimisme souvent en entreprise.
J'imagine. Alors, donc, du coup, là découle le club de l'optimisme. Alors, qu'est-ce que ce club de l'optimisme?
Alors, en fait, on s'était rendu compte qu'il existait des clubs de sport pour prendre soin de sa santé, en l'occurrence. Et à un moment donné, on se rendait compte que les gens, ils avaient aussi besoin de prendre soin de leur morale. Du coup, sur un peu le principe d'une salle de sport, on s'est dit qu'on allait créer un club de l'optimisme, afin de faire en sorte que les gens échangent et d'une, et le moyen de s'inspirer pour booster en fait leur optimisme au quotidien. Donc comment ça fonctionne, c'est que 2 à 3, 4 fois par mois, on organise des ateliers où les gens peuvent venir et où ils vont être coachés par des personnes qui les aident à prendre la parole en fait, par de l'impro, par des spécialistes de la psychologie positive, etc., etc. Et qui pendant 2 heures vont ressortir un peu boostés en optimisme en se disant bah, moi aussi je peux agir, je peux faire quelque chose en fait.
Ok, ça c'est plutôt une bonne idée. Et du coup j'ai vu qu'il y avait aussi des trucs, peut-être du yoga, des choses comme ça, non?
On va mettre, en fait, aujourd'hui il y a un peu ce trip du yoga. Tout le monde va faire du yoga, mais il n'y a pas que le yoga en fait pour aller mieux. En fait, et du coup notre enjeu c'est de mixer en fait les disciplines pour créer une sorte de parcours qui fait à la fin que les gens ont expérimenté des choses qui vont leur avoir permis de gagner en confiance en eux. Donc il y a du yoga, il y a de la sophro, il y a de l'improvisation, il y a des techniques de théâtre, du stand-up, etc. qui sont des outils en fait pour s'outiller et s'armer en fait face à un pessimisme un peu ambiant dans la société.
Et oui. Pourquoi on est aussi pessimiste? Qu'est-ce qui va pas?
Parce qu'on s'accorde pas de temps pour soi, on s'accorde pas le temps de la prise de recul, en fait. On est baigné dans une société qui est contraignante, où tout va pas forcément bien, hein, que ce soit sur notre parcours pro, sur notre parcours perso, on a tous des couacs de vie. Et on s'accorde pas le temps d'essayer de voir un peu les choses différemment, et on n'apprend pas la confiance en soi quand on est gamin. On nous arme pas en fait à faire face à tous ces changements permanents, et de fait, à un moment donné, on subit. Et on est un peu dans la passivité, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer son smartphone et on va aller regarder sur les réseaux sociaux, on va critiquer, mais c'est pas constructif, en fait, on perd de l'énergie. Et à un moment donné, faut la regagner, cette énergie. Et on prenait du temps pour, à un moment donné, gagner en élégance. Et à un moment donné, mais faut aussi regagner en énergie en confiance et en morale, en fait.
Bah carrément. Et ça serait quoi les clés au quotidien? Par exemple, si je veux avoir toute la journée, essayer de pas mettre justement la tête dans le guidon, tout ça serait quoi les clés au quotidien?
Prendre du recul. En fait, et avoir un peu de discernement. La société va pas si mal. Quand vous regardez autour de vous, vous avez pas que des mecs qui sont en train de couper la jambe de leur femme. Vous voyez, quand vous regardez tous les faits divers sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. Du coup, avoir du discernement par rapport à ce qu'on vous envoie au quotidien, en fait, par tous ces émetteurs des réseaux sociaux et autres. Prendre le temps un peu d'introversion, se calmer, en fait, en se disant « Ok, là je suis un peu dans un rythme effréné, une minute de recul » et essayer de voir ce qui va au quotidien. C'est pas nier le fait que ça va pas, hein. Faut être clair, c'est accepter que ça aille pas, mais se dire j'ai eu une bonne amie aujourd'hui qui m'a appelé pour prendre de mes nouvelles alors que je viens de rompre avec mon mec. Mais j'ai aussi ma sœur qui a été sympa, qui est passée samedi, dimanche, j'ai un mec qui m'a souri dans la rue. Vous voyez, ces petits détails, ils ont tendance à être obstrués en fait par un quotidien, parce qu'on retient plus facilement ce qui va pas. Notre cerveau est conditionné comme tel, donc globalement il faudrait 5 bonnes nouvelles pour en compenser une mauvaise. Parce qu'on retient chaque fois plus une mauvaise nouvelle. Du coup, prendre le temps à un moment donné de se dire, y a des petites choses qui vont bien dans mon quotidien, c'est pas grand chose, mais c'est quand même déjà ça.
Oui, carrément. Et alors, du coup, donc depuis 2016, l'optimisme.com, oui. Donc vous dites que vous mettez beaucoup en avant toutes les actions qui sont positives. Oui. Est-ce qu'il y a eu des actions qui vous ont vraiment marqué, dont vous avez parlé, qui sont, si on devait faire un top 3 je sais pas si c'est évident, hein.
C'est difficile de faire un choix, parce que mon choix est arbitraire, et pour moi, c'est des histoires de rencontres. Il y a des gens qui m'ont émerveillée dans leur combat, alors que, ils faisaient pas beaucoup de choses en soi, mais le simple fait, une infirmière, par exemple, je vais vous citer Leïla, qui est une infirmière, qui a 30 ans, a décidé de reprendre ses diplômes, elle est maman de 5 enfants. Vous voyez, elle a bossé le samedi, le dimanche, et la journée, elle allait, elle allait faire ses cours, en fait, pour devenir infirmière, et ça montre, qu'en fait, tout est possible, quel que soit le degré de vie dans lequel on soit, parce qu'on se dit tout le temps, il est trop tard. Il est trop tôt. Je peux pas faire grand chose. J'ai des enfants. J'ai une famille. J'ai pas d'enfants. J'ai pas de famille. On trouve toujours une bonne raison, en fait, de pas se lancer. Et en fait, ce que je retiens, c'est pas tant des initiatives qui ont été mises en place, c'est des gens qui sont allés au bout d'une action, parce que, elle, en l'occurrence, Leïla, maman de 5 enfants, à Tonnerre, dans le centre de la France, avait décidé qu'elle avait envie d'aider les autres en devenant infirmière. Et elle s'est donné les moyens de ça. Et c'est ça que je rencontre en fait au quotidien, et que ce soit des entrepreneurs qui lancent, hier j'étais avec Comte de la Vie, qui est une marque de champagne, qui a créé un champagne et donne 30% de leur de toutes les ventes de champagne pour sauver la planète. Donc ils ont créé Toast for the Planet. Que ce soit une famille qui s'engage parce que c'est la maman et la fille, que ce soit une infirmière qui s'engage, que ce soit sur le territoire quelqu'un qui crée quelque chose pour aider les demandeurs d'emploi. Typiquement, vous voyez, il y a plein d'actions, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Par contre, il y a des gens qui, à un moment donné, se sont dit « Ok, qu'est-ce que je fais, moi, pour participer, finalement, aujourd'hui, à ma société ?»
Oui, les gens qui se bougent, quoi.
Qui se bougent, en fait. Et c'est dur de se bouger, parce qu'on nous a appris que si on n'avait pas le bon diplôme, que si on n'avait pas la bonne formation, que si on était une nana, que si on était un mec trop vieux, trop jeune, trop gros, trop moche, enfin, voilà, on vous a enfermé dans des clichés, c'était pas possible de réussir. Bah si, c'est possible.
Oui,
mais il faut faire le premier petit pas.
Merci beaucoup Catherine Testa. Je vous rappelle le site l'optimisme.com pour prendre une bonne dose d'optimisme et de courage si vous avez envie de vous lancer dans un projet.
Chaque nuit, on passe de bons moments ensemble sur Voltage, mais il est temps pour moi de vous quitter jusqu'à demain. Bonne fin de nuit.
Ton palais, c'est trois bouts de tôle, de planches de bois, un paradis de bidonville qui s'appelle Fabella. Sur les bidons, on peut tous faire de la musique et refaire la mer. Bio Maravilla, faire s'éteindre le soleil. Gracias.